positive.
Photographie, sculpture,
peinture,
dessin.
Expositive pour vous donner à voir.
Bonjour et bienvenue dans Expositive. Écoutez voir. Expositive, c'est l'émission qui vous emmène à la découverte de l'univers d'une artiste à travers ses propres mots. Aujourd'hui, un nouvel entretien réalisé lors d'une visite à l'atelier Blétry à La Rochelle en septembre 2024. Je laisse l'artiste se présenter.
Bonjour, je m'appelle Hélène Amrouche, je suis dessinatrice. J'ai été diplômée en illustration aux arts décoratifs de Strasbourg, qui s'appelle maintenant la IR. Et en fait, ma pratique tourne beaucoup autour de la peinture, du dessin, de la peinture à la gouache et en fait de l'illustration en général.
C'est amusant parce que les différentes techniques qu'on a entendues pouvaient m'évoquer la couleur. Et la première série devant laquelle on m'a expressément placée, c'est en noir et blanc du coup.
Et oui. Parce que là, c'est vraiment un travail autour du dessin et que j'ai entamé, en fait, avant de vraiment étudier et explorer la couleur. Avant, j'ai toujours dessiné en noir et blanc. Au début, je n'étais pas du tout à l'aise avec la couleur. C'est quelque chose que je me suis un peu imposée par la suite, quelque chose auquel j'ai pris goût. En fait, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai beaucoup dessiné au crayon, au fusain. Et là, c'est une série dans laquelle j'explore beaucoup la composition.
Moi, ce que j'ai entendu, là, c'est une espèce d'économie de matériel. Parce que le crayon et le fusain, c'est vraiment des petits de base, quoi. Quand on se forme, c'est les outils de l'esquisse. C'est des outils, le crayon que tout le monde a dans sa trousse, même scolaire. Et il y a quelque chose aussi de l'exercice graphique que je retrouve dans la plupart des pièces qui vont avoir ou des composantes architecturales, enfin et ou, mais aussi un travail de l'ordre de la frise, quoi, de la répétition, qui sont des travaux qui, moi, m'évoquent l'apprentissage, pareil, de quand on apprend à tenir un crayon, on répète des boucles, des formes, pour gagner la dextérité en fait nécessaire à servir de l'outil. Et ça me donne vraiment cette impression d'exploration des possibilités des outils, d'obtenir des bornettes avec des espaces presque colorés, parce qu'il y a tout un travail sur l'intensité des noirs et des gris, et c'est ça qui crée les frises, la répétition, les dynamiques, et il y a un certain nombre de formes qui sont répétées, qui sont vraiment très simples, et c'est ça qui m'évoque une espèce de pratique à la fois peut-être un petit peu méditative par la répétition, et un travail d'exploration du langage graphique et de l'illusion aussi de la perspective qu'on crée avec comme ça des outils très simples, presque de la vie quotidienne, quoi.
C'est exactement ça. Et c'est la première fois qu'on me fait cette réflexion, surtout autour de l'exercice. Parce que, en fait, vraiment, j'avais amorcé cette série comme un exercice. J'avais vraiment très envie, à l'époque, de m'exercer pour avoir quelque chose de très construit. Parce que j'avais un dessin qui était très vaporeux, très flou, très spontané. Mais je me sentais un petit peu dans mes limites. Et donc là, j'ai vraiment construit une grille. J'ai construit un dessin sur une grille de 5 par 5 mm. Et tout est très répétitif. Et c'est vrai que je me suis imposée de n'utiliser qu'un critérium, donc j'ai même pas plusieurs types de crayons. Et je me suis amusée, à essayer d'avoir plein de nuances de gris, à construire une image très très foisonnante, presque une espèce de motif en fait, presque très décorative. Et pourtant à l'intérieur il y a des histoires. Et je me suis amusée comme ça en fait à raconter des histoires, à capter quelques moments en fait de ces histoires et de les traduire comme ça. Avec un effet comme ça très, très séduisant. Donc c'est vrai qu'au premier abord, on voit une espèce de multitude de détails en noir et blanc. Et en fait, quand on plonge un peu à l'intérieur, on commence à observer ces détails et on commence à se voir, à voir se détacher un personnage, une architecture, une structure, peut-être un paysage, et tout ça en accumulation. Je me suis beaucoup inspirée pour cette série des miniatures orientales. Parce qu'il y a vraiment un espèce de jeu de construction, de composition. Il n'y a aucune perspective. Tout est plat, tout est en 2D. Mais avec la 2D, on peut raconter plein de choses. On voit plein d'espaces qui se côtoient.
Alors, moi, je vois quand même des éléments qui suggèrent la perspective à cause de la taille relative des objets. Oui. Là, il y a un point de fuite central, par exemple. Oui, il y a quand même un jeu de perspective. Et il y a des jeux d'illusions, en fait, de perspective. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on retrouve des lignes qui évoquent un point de fuite central. Donc, comme quand on regarde au fond d'un couloir, la porte tout au fond du couloir, elle est plus petite. Et puis, on a les murs qui ont beau être parallèles dans la vraie vie. On le sait bien que les murs sont parallèles. Au fond, ils ont l'air beaucoup plus près. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut dessiner en perspective. Donc, l'arrière-plan est plus petit et les lignes se rapprochent. Et il y a d'autres endroits, il y a des lignes qui vont avoir la même dynamique, mais qui n'ont pas ce rôle dans l'espace. Mais il y a cette information qui est envoyée au cerveau parce que on est habitué à lire les choses comme ça. C'est comme ça qu'on perçoit le monde aussi. On voit cette déformation perspective avec nos yeux quand on regarde dans la vie de tous les jours.
Par exemple, sur ce dessin-là, particulièrement, si tu regardes, donc ça représente comme une espèce de couloir avec une porte au fond. Et on voit un personnage parcourir ce couloir. Et les murs sont une succession d'arcades foisonnantes de détails, foisonnantes de motifs. Donc c'est presque... Il y a tellement de motifs qu'on le regard est un peu troublé. Il y a quelque chose d'un peu psychédélique, en fait, là-dedans.
Alors qu'on en noir et blanc, hein. Mais oui, ça fonctionne tout à fait. Il y a une douzaine d'arcades successives, des arches avec différentes traditions, plutôt outre-méditerranéen, hein, quand même. C'est pas roman gothique, hein, les formes qui se succèdent. Je vois qu'il n'y a pas l'épaisseur de ce que serait la portion de mur ornementée. Pour moi, c'est la seule information qui est absente. Mais il y a il y a des lignes de construction d'une perspective avec un point de fuite central.
C'est vrai, de toute manière, ça donne la sensation d'une perspective. Clairement, on voit une perspective et on comprend en fait qu'il y a une profondeur dans l'image. J'ai essayé de garder ce côté un peu plat, en fait, ce côté l'illusion d'une profondeur, alors qu'en fait, c'est une accumulation d'images. Une espèce de trouble entre quelque chose de réaliste et en même temps quelque chose de très, très orné.
C'est pas une vraie perspective telle que l'enseignement l'a dispensée, en fait.
Oui, voilà.
Ah, d'accord.
J'aime bien créer des images avec une profondeur un peu étonnante, quoi. Par exemple, en accumulant une image sur une autre image avec ce cadre, à première vue, on a la sensation que c'est une seule et même image. Et en fait, c'est comme un plan dans un autre plan. C'est un petit peu comme dans la bande dessinée, tu sais, dans la bande dessinée classique, on a plusieurs plans, en fait. On a des cases, dans chaque case, un plan, une scène, etc. Et comme c'est bien rangé, la compréhension de l'histoire est très linéaire. Là, ce qui m'amusait, c'était plutôt comme si on imaginait qu'on mettait une case dans une autre case, puis dans une autre case, et en fait de créer une espèce de patchwork avec, dans une image générale, plusieurs images. Et donc toutes ces images communiquent entre elles, et elles créent déjà une espèce de cohérence ou pas, et en plus une narration, quoi.
Je vais peut-être décrire cette œuvre-là qui a été saisie en particulier, parce que je pense qu'elle informe, en fait, sur la série, parce qu'il y a un vrai travail sur le cadre. Oui. C'est-à-dire qu'on a un premier cadre qui est travaillé avec ces frises géométriques en niveau de gris. Les interventions graphiques entre les horizontales et les verticales sont différentes. Quand on rentre à l'intérieur de cet espace, il y a une première zone paysagère qui est à son tour entrecoupée par un cadre beaucoup plus léger. De loin, je ne le voyais même pas dessiné. Je voyais un espace presque blanc, alors je voyais quand même un petit peu de niveau de gris, mais rapporté sur la zone dessinée en paysage avec des zones de couleurs qui évoquent, des collines d'un vert plus foncé qu'un autre. Alors bien sûr, on est en noir et blanc, hein, mais voilà, on est habitué à reconnaître des zones paysagères. Donc voilà, il y avait plusieurs niveaux de gris qui évoquent plusieurs matières ou plusieurs ombres ou lumières sur un même espace que moi j'imagine vert, voilà. Et donc, au milieu de cette image, il y a une interruption de la ligne d'horizon, de la couleur du ciel. La ligne d'horizon n'est plus au même niveau. Et là, dans cet espace-là, on a un personnage qui est central, puisque le cadre qui est enchâssé dans l'autre, en fait, le premier espace paysager que j'ai décrit devient lui-même cadre pour cet espace à l'intérieur. Et c'est peut-être aussi cette image-là qui m'a fait lire la série comme un espace d'exercice, puisque... Voilà, moi, ça me parle de cette interrogation du cadre, de ce que c'est la pratique du dessin, avec quels outils et quel cadre normatif, peut-être en sortant de formation, à ce que j'entends, limite les outils de la narration. J'ai l'impression que c'est vraiment un travail de se réapproprier le faire du dessin et de l'arracher au cadre conventionnel dans lequel on s'est peut-être un petit peu conformé précédemment, je ne sais pas.
Ah, complètement. Ah oui. C'est vrai que finalement, cette série, au-delà de l'exercice, c'est vraiment ce qui l'a défini, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail autour du cadre, de l'ornementation. Et c'est vrai que je me questionnais aussi autour du cadre. En fait, souvent, les images, on oublie souvent qu'elles sont enfermées dans un cadre. Elles sont souvent rectangulaires, carrées. Elles rentrent dans le format, en fait, dans lesquels on les fait. Ça, c'était un petit peu comme une exagération, en fait. Donc, j'ai pris le cadre comme une espèce de... comme quelque chose d'à part entière au dessin. Et donc, j'ai ornementé, j'ai créé ce cadre pour qu'il soit aussi visible et beau. Et pour structurer davantage. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement composé, avec aucun détail mis au hasard, quoi, voilà.
Et c'est marrant parce que, du coup, cette série-là, elle détonne vraiment avec tout le reste des choses que je vois dans la pièce. Alors, il y a quelques endroits où on retrouve des petites frises en bordure, etc. Mais du coup, là, on est très en couleur, donc on se sent un petit peu loin. On est ailleurs.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ce qui est resté, c'est vraiment l'ornementation et puis, en fait, le fait de créer des espaces dans les images. Donc, par exemple, si tu veux, je peux te montrer une autre série.
Oui.
Ça, c'est un exemple de cette série. C'est une série que j'avais exposée lors d'une exposition que j'avais appelée « Contemplation ». En fait, toute cette série dépeint une espèce de paysage, donc une immense forêt. Tout est fait à la peinture, à la gouache, et dans chaque image, en fait, on a comme une espèce d'image intérieure, donc un paysage, et dans ce paysage, une image superposée qui met en lumière un détail qui pourrait être dans ce paysage.
Donc là, ce qui vient d'être décrit, c'est un petit peu le protocole.
Ouais.
Et comment ça se traduit, c'est que c'est pas une superposition au sens que c'est pas un morceau de papier rapporté dans l'image. C'est un espace qui est épargné.
Oui.
Par la couleur. Je voudrais aussi préciser que le travail de la gouache, on n'est pas sur des aplats opaques, on est sur quelque chose qui renvoie plus au travail de l'aquarelle ou de l'encre.
Oui, oui.
On a un travail sur la question de la diffusion de la couleur dans le papier et d'une couleur à l'autre. Techniquement, c'est très intéressant parce qu'on a des bords très nets alors qu'à l'intérieur des espaces dessinés à la couleur, la matière a voyagé, quoi. Il y a eu une mobilité du pigment, il y a eu des mélanges. C'est pas seulement le côté dégradé, combien on est chargé en couleur à arriver à la translucide sur le blanc, c'est aussi on passe d'une couleur à l'autre et ça renvoie à des choses qui évoquent des milieux humides, une forêt et puis un ciel nocturne orageux. Et il y a une zone... Ben, on retrouve un petit peu une arche, hein. On a une zone qui est ronde sur le haut et avec un bord quasiment plat en bas, où là, on a le papier blanc et un dessin au crayon qui fait irruption dans la zone colorée. C'est la présence humaine, en fait, dans le paysage, mais c'est un gros plan sur des mains qui font des jeux avec les fils là, ou les élastiques. Là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les petits jeux qu'on faisait en cours de récréation où on se passait des trucs entre les doigts et puis hop, tout d'un coup, le nœud, il se défaisait. Ça évoque assez ça. L'autre présence non végétale dans le paysage, c'est une multitude de crabes et de poissons qui sont colorés, mais ils sont comme épargnés dans la couleur de l'eau qui est beaucoup plus sombre, qui est vraiment dans une teinte presque aussi sombre et soutenue que le ciel nocturne qu'on a en haut de l'image. Donc, il y a un rapport aussi très fort entre le tout petit bout de ciel qui est vraiment un espace très réduit en haut de l'image et une surface qui est quasiment de la même importance en bas de l'image, mais au lieu que ce qui soit épargné soit blanc et soit constitué d'étoiles et d'éclairs, on a des silhouettes de crabes et de poissons qui sont dans des teintes qui ont été travaillées avant que soient travaillées peut-être les masses rocheuses qui évoquent les bords de rivière aussi, mais voilà. On a des formes ni complètement anguleuses, ni complètement arrondies, qui sont dans des teintes bleutées avec des irruptions de rouille et puis presque des gris, des noirs comme ça, qui évoquent un petit peu, voilà, moi ça m'évoque ça, les rochers au bord de la rivière. Et c'est rigolo parce que moi ça m'évoque ce langage aussi de lecture en fait des étoiles, parce que c'est comme si je voyais le cancer dans la rivière qui devrait être une constellation ou un truc comme ça.
Oui, c'était exactement ça, oui. Et puis, effectivement, c'est vrai que, comme tu décrivais, la gouache ici, je la traite avec beaucoup d'eau. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette technique, c'est qu'on peut avoir des rendus très, très différents, on peut avoir des rendus très mats. Et en même temps, en fait, en jouant avec l'eau, on peut avoir beaucoup de nuances, avoir des mélanges de pigments, avoir des nouvelles couleurs qui émergent. Ce que j'ai voulu raconter avec cette série, c'est comme une petite histoire sans parole. C'était vraiment d'écrire un paysage, un immense paysage, comme si on déambulait à l'intérieur. Et que dans cette déambulation, dans cette grande nature, donc comme tu décrivais, avec des ciels, avec énormément de forêts, de roches, C'est comme si dans cette déambulation, on apercevait comme ça un détail, comme une fulgurance comme ça qui apparaît. Donc, il y a ce jeu avec les mains, il y a un vase brisé par exemple sur une autre peinture, il y a une bûche qui tombe, il y a un crabe. Enfin voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui sont un petit peu des symboles d'histoire qui racontent voilà, qu'en fait dans cette nature paisible, il se passe des choses. Il va se passer des choses, c'est comme des augures un peu.
Oui, ou alors c'est le début du conte, c'est-à-dire qu'on plante un décor et on pose un personnage ou une situation initiale.
Oui, oui.
Et après, on ne sait pas ce qui se passe.
Voilà, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais on utilise un petit peu l'imaginaire pour... voilà, chacun s'imprègne de ses images comme il le sent, quoi. Et c'est comme ça que je choisis un petit peu ces images, c'est-à-dire que, par exemple, le vase brisé, c'est un petit peu l'idée qu'il va se passer quelque chose, en fait, que ce n'est pas paisible.
Quand on regarde le paysage de loin, on l'imagine paisible, parce qu'on le voit de loin,
ouais.
Mais ça se trouve sous la canopée, l'incendie couvre déjà, c'est ça l'idée ?
Exact, oui.
D'accord.
Voilà, c'est exactement ça.
C'est-à-dire... Je dis l'incendie, parce que quand on évoquait qu'il y avait une bûche qui tombait, c'est une bûche enflammée, hein, voilà.
L'idée, c'est que c'est le calme avant la tempête, tout est absolument calme, et puis tout à coup, voilà, il y a des détails qui viennent un petit peu nous signifier que quelque chose arrive, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. La série qui suit, justement, c'est l'incendie, c'est l'après... Et donc là, tu as toute une série de peintures en petit format avec un feu qui se propage dans la forêt.
C'est beaucoup plus petit, l'espace peint,
oui.
Alors que du coup, dans la dramaturgie, on est ailleurs, quoi.
Oui, oui.
C'est rigolo, ce changement de format et d'occupation aussi de l'espace du papier, même la façon dont c'est présenté, parce que la première dont on a parlé, il n'y a pas de marge. Là, la marge est quasiment aussi importante que la zone peinte, en fait. Donc on est dans un rapport à l'image complètement différent, à l'attention qu'on porte, à comment c'est cadré, du coup, ouais, c'est pas du tout la même chose.
La première série, il faut la voir un peu comme une immersion. C'est très très foisonnant, il y a énormément de détails, il y a beaucoup de nature, donc quelque part c'est très contemplatif, on observe beaucoup ce qui se passe et on peut mettre un peu de temps à tout voir. Alors que dans la série où le feu se propage, c'est un zoom, quoi. C'est une concentration sur le feu. Donc, la marge autour, elle permet justement de n'observer que ça, que ce qui est central.
L'échelle des arbres représentés, elle est quasiment identique, en fait.
Oui.
Mais la façon dont c'est cadré autour change, ouais, la façon dont on, peut-être dont on s'approche de l'image pour la regarder, parce que du coup, le besoin de recul n'est plus le même, puisque
oui.
Le volume général est beaucoup moins important. Mais du coup, on s'approche du feu.
Oui, c'est vrai. Mais si tu veux, quand je l'avais présenté, ce n'était pas encadré.
Ah, c'est rapporté.
L'image est petite.
D'accord.
Et je l'avais présenté avec, tu vois, toutes ces petites sculptures en céramique. L'idée de ces sculptures, c'était d'avoir comme des objets qu'on aurait récoltés sur notre chemin. Et donc, elles étaient composées ensemble, en superposition. J'avais
D'accord.
ces images qui étaient posées sur une table. Et puis, par-dessus, toutes ces objets. Donc, on voit des petites branches d'arbres, des feuilles, des petits serpents, des petits coquillages. Tout ça fabriqué en céramique.
Qui représente tout ce que les enfants ramènent dans leur poche ou dans les sacs de leurs parents, de gré ou de force, après une promenade, quoi.
Ah oui, voilà, c'est les petits trésors qu'on trouve sur un chemin, qu'on ramasse alors que... Enfin, ils ont l'air de rien, alors qu'en fait, c'est des petits trésors, quoi.
Alors, donc là, on se rencontre à l'atelier Blétry, qui organise régulièrement des expositions collectives des artistes qui y sont en résidence. Est-ce que... Il y a d'autres façons de pouvoir voir votre travail ?
Alors oui, on peut voir mon travail sur les réseaux sociaux, donc à mon nom, Hélène Amrouche, sur Instagram, sur Facebook et sur mon site internet.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
J'espère que cet entretien vous aura donné envie de découvrir plus avant l'univers d'Hélène Amrouche. Pour ce faire, vous pouvez suivre l'une des recettes qui vient de vous être donnée. En effet, il y a justement en ce moment... une exposition collective des artistes en résidence à l'atelier Blétry sur le thème de l'arrière-cuisine. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site de l'atelier Blétry, atelierblétrytoutattaché.fr ou sur la page Facebook www.facebook.com/atelierblétry.atelierblétry. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces indications ou si vous avez raté le début de cette émission, elle est peut-être encore diffusée ou rediffusée sur l'une des radios associatives qui nous soutiennent. Pour retrouver tous les jours et heures de diffusion, rendez-vous sur le www.facebook.com/expositive. À cette page, vous retrouverez une publication dédiée à la présente émission, avec tous les liens utiles prêts à cliquer. À bientôt pour une prochaine édition d'Expositive.
Photographie,
sculpture,
peinture,
dessin...
Oh, my God. I never had it as well. expositive pour vous donner à voir.